Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Crésus. Vous connaissez le principe de l'émission, des personnes qui acceptent de témoigner sur Radio Crésus pour parler de leur situation financière délicate, pour apporter des informations sur les solutions, pour dire effectivement que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais qu'il y a des réponses et que Crésus peut en apporter certaines. Avec nous aujourd'hui, Amélie Imbert du réseau fédéral Crésus. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Marilyn Wächter de la Chambre de consommation d'Alsace.
Bonjour.
Et Jean-Philippe Dufond qui est un stagiaire de l'ENA qui est avec nous pendant une quinzaine de jours, là qui termine son stage. Bonjour Jean-Philippe.
Oui, bonjour.
Voilà, et Régis Alter à l'antenne. Alors, nous avons avec nous Maria. Maria ?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Maria. Donc, vous avez accepté de témoigner sur Radio Crésus.
Voilà, tout à fait. Oui.
Est-ce que vous pouvez décrire à nos auditeurs ce qui vous est arrivé, ce qui vous arrive aujourd'hui ?
Ben, en fait, comme vous le disiez, hein, l'antenne, c'est qu'en fait, effectivement, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. J'étais propriétaire de deux biens. En fait, il y en a un qui était sous compromis de vente au moment où j'ai racheté un deuxième bien. Et j'ai donc obtenu un crédit relais à l'époque, c'était en 2008-2009. Crédit relais sur le montant de 240 000 euros qui correspondait donc à l'achat de ces deux biens. Évidemment, toujours avec le compromis de vente qui était fait sur le premier bien qui devait donc être vendu pour la somme globale. Malheureusement, avec la conjoncture, le compromis de vente a été annulé. Et je me suis donc retrouvée avec deux maisons et le crédit relais qui était à régler.
Et le motif, le motif de l'annulation de ce compromis.
Le motif de l'annulation, ben les acquéreurs n'ont pas trouvé. Ils avaient un bon apport, mais apparemment là-bas, les banques ne les ont pas suivis.
Donc pas de crédit.
Donc les acquéreurs de mon premier bien qui était pratiquement vendu au moment de l'achat de mon bien sous crédit relais, ben les acquéreurs de ce bien n'ont pas obtenu leur crédit.
D'accord.
En fait. Donc la vente a été annulée et de ce fait, je me suis retrouvée donc avec les deux maisons et le crédit relais à régler. Jusque-là, ça posait pas de problème puisque mon premier bien était quand même un bien conséquent avec possibilité d'obtenir un loyer puisque j'avais une rentrée foncière. Donc ça posait pas de problème.
D'accord.
Jusque-là, tout allait bien et ça se réglait relativement facilement. Puisqu'en même temps, j'étais secrétaire marketing dans une société et donc je gagnais bien ma vie. Malheureusement, j'ai perdu mon emploi pratiquement après cette annulation. J'ai perdu mon emploi et là, ça a changé un peu la donne puisque par souci d'honnêteté, je suis allée voir le banquier.
Oui.
Et je lui ai expliqué la situation en lui disant voilà, attention, je vais avoir du mal à régler mon crédit puisque je viens de perdre mon emploi. À l'époque, j'avais demandé même à repasser sur un crédit amortissable puisque j'avais assez de revenus. J'arrivais à 4000 euros avec mes revenus fonciers, donc c'était quand même conséquent. Et la banque avait accepté de me repasser en crédit normal amortissable sur les deux biens. Malheureusement, ayant perdu mon emploi et dans mon souci d'honnêteté, je suis allée leur dire, je suis passée sur un contentieux. Alors, je souhaite à personne de se dire on va au contentieux, ça va s'arranger. C'est tout le contraire qui se produit. Vous êtes au contentieux, c'est la catastrophe.
Alors Maria, expliquez-nous un peu là comment vous êtes arrivée au contentieux, parce que c'est vrai que le raccourci est rapide. Qu'est-ce qui s'est passé avec la banque ?
Le raccourci rapide, en fait, ce qui s'est passé avec la banque, c'est que ce qui était prévu, en fait, le financement qui était prévu normalement avec un crédit amortissable est tombé à l'eau à partir du moment où j'ai perdu mon emploi. Donc, quand je leur ai expliqué que j'avais plus de rentrée d'argent et que je pouvais pas tout de suite continuer à payer ce crédit assez haut quand même,
oui.
Ben, on m'a dit, écoutez, ben, si c'est comme ça, on vous met au contentieux. Et moi, dans la naïveté, j'ai dit, ben, écoutez, mettez-moi au contentieux, je réglerai ça avec eux.
Oui.
Voilà.
D'accord.
C'était vraiment, on passe du coq à l'âne rapidement, c'est vrai, mais ils ont pas laissé le temps, quoi, en fait. Donc, suite à ça, j'ai dû prendre un avocat, puisque tout de suite après la perte de mon emploi, j'ai eu un accident et j'ai cassé ma jambe. C'était plutôt par rapport à ça aussi, parce que je crois que ça s'est passé pratiquement en même temps. La perte de mon emploi et un accident de la vie, je me suis fait une double fracture tibia péronée. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, je leur ai parlé, que je leur ai demandé pour un arrangement. Et
oui.
C'est là qu'ils n'ont pas accepté, en fait.
Parce que dans certains
et
cas, les...
Oui. Ma
Maria, dans certains cas, les établissements de crédit ou les banques...
Ont des assurances, oui.
Oui, peuvent accepter.
Mais passées au contentieux, elles n'avaient plus de rôle. Elles n'avaient plus lieu d'être. Cette assurance a été annulée au moment où je suis passée au contentieux, en fait.
Parce que vous ne payez plus la prime ?
Non, non, la prime a continué d'être payée puisque j'ai loué mon bien.
Oui. Alors,
le souci, pour éclaircir la chose, parce que je vois que je me suis mélangée dans mon discours, c'est qu'au même moment où j'ai eu le compromis de vente qui est tombé, j'ai perdu mon emploi. Et au même moment où j'ai perdu mon emploi, j'ai encore eu un accident de la vie. Et je me suis donc retrouvée pendant quelques mois en arrêt maladie. Je percevais bien des indemnités, mais qui n'étaient pas suffisantes. Donc, perte d'emploi veut dire on peut plus honorer la même traite. Mmh. Effectivement, j'ai dû louer mon appartement. J'ai vécu un moment dans ma cave, hein, comme je le dis, c'est clair. J'ai loué mon appartement.
C'est-à-dire, vous avez dû vivre dans votre cave, ça, concrètement,
oui,
ça veut dire que vous avez descendu vos affaires?
Oui. Voilà, j'ai dû enlever mes affaires, et puis j'ai vendu une partie de mes affaires, et puis j'ai vécu un moment dans une cave, dans la cave de ma maison que j'avais aménagée, quoi, hein, pour pouvoir au moins continuer à payer cette traite, quoi.
Mais c'est incroyable, ça, quand on entend...
Oui, mais c'est comme ça.
Oui.
Alors, il n'y a pas eu d'arrangement possible, hein, c'était impossible. Donc, j'ai pris un avocat. J'ai pris un avocat pour gagner du temps, vu mon accident. J'ai pris cet avocat. J'ai dit, voilà, écoutez, je ne veux pas ne pas régler ma dette. Je voudrais la payer le plus vite possible, mais dans l'immédiat, je n'ai pas d'emploi. Donc, je m'engage. J'ai donc envoyé un courrier à la banque en m'engageant à trouver un CDI, en m'engageant à payer ma dette, en leur expliquant qu'effectivement, j'avais placé des locataires dans ma maison et que, bon, les loyers allaient être repayés. Enfin, les traites de mon crédit ont repris très rapidement. Hein. J'ai pas laissé s'endormir les choses. Vu que la conjoncture immobilière n'était pas à la vente, je me suis dit, il n'y a qu'une solution, c'est de louer. Et dans ma maison, j'avais un magasin que j'avais créé qui ramenait un loyer, plus le loyer de mon type.
Donc, on voit bien que vous avez mis des moyens en œuvre pour essayer de vous en sortir. Alors, est-ce que ces moyens ont été suffisants? Est-ce que ces moyens ont été suffisants pour enrayer la dégringolade?
Ils ont, à l'époque, pas assez, puisque j'avais pas encore d'emploi, j'avais pas retrouvé d'emploi. Donc, j'ai retrouvé un emploi. J'ai trouvé un CDI comme auxiliaire de vie, aide-soignante auprès d'une patiente qui est toujours ma patronne. J'ai qu'une seule patiente et j'ai obtenu un CDI.
D'accord.
Donc, je suis allée voir la banque en leur disant, voilà, maintenant j'ai un CDI, je gagne 1 700 € par mois à peu près, plus 1 000 € de rentrée foncière. Est-ce qu'on peut pas refaire un réajustement de mon prêt? Ah non, absolument pas. Vous et nous, c'est un divorce. On attend que vous ne puissiez plus payer. Et à ce moment-là, on vous prendra vos biens. J'ai dit, bon, bah, tant pis, je vais les vendre au plus bas prix, mais je vous les lâcherai pas. Et donc, j'ai vendu une de mes maisons à perte. Et actuellement, ce qui m'a amené chez Crésus, en fait,
oui,
c'est qu'aucune banque ne veut me prêter alors que j'ai un CDI, que
oui,
je suis sérieuse, que
oui,
je montre vraiment tout est OK. Aucune banque ne veut prêter parce que c'est un contentieux. À partir du moment où vous êtes dans un contentieux, même si votre situation financière s'est améliorée, même si vous vous donnez toutes les peines pour y arriver, le contentieux, c'est une étiquette, aucune banque vous suit. Aucune banque ne rachète un crédit qui est au contentieux. Aucune. Vous pouvez gagner autant que vous voulez, aucune banque vous suit.
Alors, c'est peut-être pas aussi absolu, mais en tout cas, vous concernant, c'est clair que, manifestement, vous avez de grandes difficultés pour obtenir un financement. Alors, la question qui se pose, c'est, vous êtes allé voir Crésus, dans quel but?
Bah, en fait, je suis allé voir une banquière.
Oui.
J'ai quand même démarché pas mal de banques depuis 2 ans, hein, parce que ma situation, elle dure depuis 2009. Alors, pour vous dire, elle dure, hein.
Ça fait 5 ans.
En attendant, c'est la galère, quoi. Donc, moi, ça fait depuis 2010 que j'ai trouvé un emploi. J'y suis toujours. Et donc, par le biais d'une banquière, qui m'a dit, écoutez, franchement, je vois votre bonne volonté. Je vois que tout est en ordre dans vos papiers, mais vous trouverez aucune banque pour vous aider. La seule solution, c'est Crésus, allez les voir, parce qu'ils auront peut-être des conseils et ils auront peut-être une solution. Donc, c'est par ce biais-là que je suis allée me présenter chez Crésus.
Alors, quelle a été la solution qui a été proposée par Crésus?
Alors, déjà, l'accueil, ils ont été à l'écoute. Ça, c'est quand même important parce que c'est une démarche qui est difficile à faire. On est dans une situation où on est vraiment en situation de faiblesse. Donc là, j'ai quand même eu un écoute.
Mm-hmm.
Récemment, j'y étais. Hein, j'étais dans vos bureaux il y a 4 jours.
D'accord.
Donc, on m'a proposé effectivement de faire un surendettement, qui obligerait, apparemment, je ne connais pas les termes juridiques, qui obligerait quand même la banque à accepter le refinancement avec un échéancier. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, je n'ai plus que 127 000 € à payer pour ma deuxième maison que je veux garder, puisque la première a aidé à rembourser la moitié de mon crédit.
D'accord.
C'est pas que j'ai pas remboursé mon crédit, c'est que la vente de mon premier bien a déjà remboursé la moitié de mon crédit.
Oui.
Et de ce fait, je me suis dit, vu que la moitié de la dette est déjà honorée, je pense pas qu'ils seront contre pour trouver une solution pour financer le reste.
Alors, il est clair, Maria,
d'engagement.
Il est clair que la procédure de surendettement, si on peut l'éviter, on essaye. Mais il faut aussi savoir que cette procédure, elle protège le consommateur. Donc, dans votre cas, et au regard du comportement de la banque, il est certain que c'est la procédure qui va certainement vous aider à stabiliser les choses.
Mon bien, voilà. Et à pouvoir avoir le droit d'y vivre, parce que c'est ma résidence principale maintenant. Et en fait, comme dit, hein, je le redis, le fait qu'il y ait déjà eu une vente de fait sur mon premier bien, ça comblait quand même la moitié du prêt. Donc, on n'était plus qu'à 120 000 euros, qui est tout à fait jouable avec le salaire que j'ai, quoi.
Oui. Alors, ce qui est important aussi de rappeler à nos auditeurs, c'est que ce n'est pas parce qu'on s'engage dans une procédure de surendettement que la commission va vous obliger à vendre vos biens immobiliers. Hein, il y a vraiment une appréciation qui est faite de la situation et de voir si effectivement la vente du bien immobilier, est-ce qu'elle est plus favorable ou est-ce qu'elle est plus dommageable
Dans le cas présent, elle n'est pas valable. Le bien que j'occupe actuellement n'est pas rénové. Il est totalement à rénover. Il n'a pas la valeur du reste du prêt que je dois.
Oui.
On n'est pas dans une valeur immobilière,
oui.
Ce qui est encore dû.
Mais au-delà de la valeur du bien, il y a ce que vous gagnez et quelle est votre capacité de remboursement aujourd'hui. Est-ce que cette capacité vous permet de conserver votre bien?
Oui, normalement ça me le permettrait. J'ai
voilà.
Pas d'autre crédit.
Donc tout en sachant que la loi, le droit de la consommation, protège les propriétaires accédants.
Oui.
Donc ça c'est important, notamment en permettant d'étaler les plans de surendettement sur plus de 7 ou plus de 8 ans. Donc ça c'est vraiment une disposition qui est très favorable pour les surendettés. Et aujourd'hui même avec la loi Hamon, il y a d'autres dispositifs qui permettent aussi d'accroître un peu la capacité de remboursement si vous pouvez conserver un reste à vivre décent. Donc ça, c'est des éléments quand même qui sont en faveur du maintien dans le logement ou dans la maison que vous possédez.
Oui, parce que jusqu'à maintenant, comme je pouvais pas vivre en hiver dans cette maison parce qu'elle n'a pas le chauffage, elle n'a pas tout ce qu'il faut, j'ai vécu en hiver en location, mais j'ai redonné cet appartement récemment pour pouvoir reprendre les versements de ce crédit en expliquant effectivement à la banque, voilà, je vivais en location cet hiver parce que je pouvais pas vivre dans ma maison, mais maintenant cette location n'a plus lieu d'être vu qu'on est en été, il n'y a plus d'enfants à charge, je peux tout à fait vivre dans ma maison.
Alors Maria, il y a un critère indéterminant en matière de procédure de surendettement pour être recevable à la procédure, c'est-à-dire pour que la commission accepte de traiter votre demande et vous protège,
oui.
Il faut que vous soyez de bonne foi. Alors peut-être qu'Amélie Imbert va vous préciser ce que c'est que la bonne foi et si dans votre situation, est-ce que vous avez effectivement tous les éléments pour que cette bonne foi soit bien garantie.
Bah,
Amélie.
Écoutez, vraiment, oui. J'ai fait vraiment mon maximum. Pour,
oui. On va écouter Amélie qui va nous apporter une précision.
Voilà. Pour le critère de la bonne foi, si vous voulez, la commission de surendettement, elle va se baser sur ça pour savoir si vous êtes recevable dans le dossier de surendettement. Donc la bonne foi, par exemple, vous faites des crédits pendant 3 mois, vous faites 15 crédits, là, la Banque de France considérera que vous n'êtes pas de bonne foi.
Ouais, c'est clair.
La bonne foi, elle est vraiment attestée par la difficulté que vous rencontrez.
Voilà, si vous avez des dépenses, par exemple, qui sont démesurées par rapport à ce que vous gagnez, là, par exemple, vous êtes considéré comme étant de mauvaise foi.
C'est pas du tout le cas.
Voilà, donc là, la Banque de France vous considérera certainement de bonne foi.
Bon, je crois que Maria, de toute façon, on est convaincu à vous entendre hein, que la bonne foi ne sera pas remise en cause. Je crois que ça, c'est important.
Donc,
maintenant,
c'est justifiable, hein, je veux dire,
voilà.
Il suffit de regarder les comptes et de regarder leur fonctionnement. Et quand, en fait, petit à petit, j'ai remonté mes comptes, j'étais fichée Banque de France, j'ai tout nettoyé. Vraiment, si j'avais voulu, je suis pas quelqu'un qui va laisser couler les choses. Il y a toujours une solution et puis... C'est clair qu'on va pas se faire aider si soi-même on n'a pas envie de s'en sortir.
Bon, après vous avez fait en sorte quand même de régler la situation, donc ça démontre bien votre bonne foi dans cette situation.
Déjà j'ai
vous avez retrouvé un CDI, enfin c'est
j'ai
pas
retrouvé un CDI
voilà.
Et tout ça en fait je l'avais signalé à mon avocat qui à l'époque
oui.
Me suivait. J'avais bien dit écoutez je m'engage, voyez avec la partie adverse, je m'engage à retrouver un emploi, je m'engage à reprendre les versements, je m'engage à vendre un de mes biens pour déjà apurer la moitié de mon crédit et tout ça je l'ai fait.
Voilà,
je
ça démontre fait. Bien que vous voulez quand même payer votre dette, honorer votre
j'ai
dette.
J'ai pris
donc
mon
là...
emploi d'auxiliaire de vie, j'avais encore une jambe cassée, hein. Je l'ai pris, j'étais encore en arrêt maladie.
Oui.
Je veux dire, mais je l'ai pris, quoi.
Maria, on a bien compris qu'effectivement, vous avez cherché, vous cherchez par tous les moyens pour trouver une solution. Et je crois que vous avez vraiment mis tous les moyens en œuvre.
Vous savez, je crois qu'il y a deux catégories de gens.
Oui.
Excusez-moi, mais il y a deux catégories de
gens. Peut-être,
il y a les addictés et les cassos qui ne veulent pas s'en sortir. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas envie de devenir des cassos, qui ont envie de rester dans le circuit social, envie de travailler, envie de s'assumer. Je suis une femme qui a élevé 3 enfants toute seule. On sort d'un quartier. À 40 ans, j'ai dit, on aura notre maison. On l'a eu. J'ai élevé mes enfants. Ils sont tous grands, ils travaillent tous. Et je suis le modèle, je suis le pilier. Je suis femme divorcée. Je suis le pilier de ma famille. C'est moi le modèle.
Maria, si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs pour terminer.
Bien faire attention quand on s'engage dans un crédit relais. Bien faire attention à ne pas tomber au contentieux. Faire un maximum pour ne pas pouvoir payer sa traite comme ça peut arriver dans mon cas où j'ai eu cet accident. Mais surtout faire attention au crédit relais et très bien être conscient de ses capacités à rembourser. Moi, à l'époque, j'avais un contrat de travail, je gagnais très bien ma vie, mais on ne sait jamais ce qui arrive derrière. Et surtout, ne pas laisser s'enliser les situations, avoir un dialogue rapide avec sa banque, ne pas pratiquer la politique de l'autruche qui veut dire oh « ben, on s'en fout, on laisse venir, quand ce sera trop grave, on trouvera une solution ». Éviter que ça s'aggrave. Moi, j'ai eu énormément de mal à remonter. J'étais surendettée, j'étais fichée Banque de France.
Maria, On a bien senti la quintessence de ce que vous nous dites. Il faut pas se laisser abattre, il faut se battre. Et ce qu'on a bien compris aussi, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on n'arrive plus tout seul à se battre, il faut pas hésiter à demander de l'aide à des associations qui. Voilà. Donc merci beaucoup Maria pour votre témoignage et on continue à travailler ensemble.
Et puis on verra la suite. Hein. De toute façon,
bien
ça va
sûr.
Passer en commission. Et puis à ce moment-là, je pense qu'il y aura des suites peut-être plus faciles, quoi.
À très bientôt Maria, merci beaucoup.
À très bientôt, au revoir.
Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, la radio qui vous aide.
Voilà, après Maria, nous enchaînons avec Didier. Bonjour Didier.
Bonjour.
Oui, Didier, vous êtes sur Radio Crésus et vous avez accepté de témoigner. Est-ce que vous pouvez parler de votre histoire à nos auditeurs ?
Alors, mon histoire, elle n'est pas très difficile. Je me suis retrouvé avec des dettes involontaires de ma part, puisque j'ai eu un employeur qui nous a fait acheter du matériel pour des raisons d'assurance, qui en fait, donc on avait laissé un chèque de dépôt par rapport à la marchandise qu'on avait pour la représentation, qui se montait à peu près à l'époque en francs français à 80 000 francs. Alors, je ne sais pas combien ça fait en euros, ça doit faire dans les 10 000,
oui,
dans les 15, 13, 14 000 euros actuels. Et donc, quand la boîte a été en liquidation judiciaire, tous les chèques qui étaient en comptabilité ont été encaissés.
Alors Didier, vous êtes dans quel domaine, vous étiez dans quel domaine d'activité ?
J'étais dans le domaine des accessoires mode. Pour un très grand groupe qui vendait de l'accessoire type montre,
oui.
Des Tex Avery, Disney, Walt Disney, Barbie, Astérix, Lucky Luke, voilà.
D'accord.
Plus une gamme haut de gamme qui s'appelait Esprit Essentiel.
Oui.
Voilà. Et donc, on s'est retrouvé avec ma banque me téléphone un matin en me disant des chèques ont été encaissés. J'ai dit, ah bon? Donc, ils m'ont accordé un crédit pour le remboursement en pensant que j'aurais le droit de les revendre. Mais n'ayant pas de numéro de SIRET ou un numéro CABIS ou quoi que ce soit, je ne pouvais pas les revendre.
Vous aviez quel statut? Oui, vous aviez quel statut?
VRP.
VRP, d'accord. Ok.
Voilà. Donc, malheureusement, j'avais un stock de montres que je ne pouvais pas me débarrasser de manière officielle. Et comme je ne fais pas de choses illégales en soi, donc j'ai fait, suite à ce crédit-là, à un moment je me suis rendu compte que je n'avais pas à payer les conneries d'un boss qui avait escroqué ses clients ainsi que ses employés.
Oui.
Et donc, comme j'avais d'autres crédits et j'avais un autre souci avec les impôts, j'ai tout inclus dedans. Et puis, j'avais à peu près pour 250 000 francs pour une faillite civile. Voilà, alors, c'était comme ça que j'ai atterri chez Crésus.
D'accord. Alors, avant d'en arriver à Crésus, donc vos ressources ne vous permettaient pas manifestement de payer ces...
Parce qu'entre-temps, j'étais tombé malade.
D'accord. Donc, il y a eu un accident de la vie, on va dire.
Voilà, exactement.
Avec baisse de ressources.
Total. Parce que quand c'est la sécurité sociale qui prend le relais, on n'a pas automatiquement, à moins que ce soit une maladie professionnelle ou un accident du travail... On touche pas l'intégralité de son salaire.
Alors, pour parler concrètement, ça veut dire que vous gagnez combien avant et ensuite, en arrêt maladie, la différence, elle était importante?
Ah oui, elle était très importante. J'étais passé à 950 euros par mois.
Oui.
Qui correspondait à peu près à 5000 euros. Et, 5000 francs, pardon.
Oui.
Et donc, entre le loyer, les soins, parce que malheureusement, il y a beaucoup de médicaments de confort qu'on prend qui ne sont pas remboursés. Donc, ça rentre dans un budget auquel on est obligé de faire face.
Et votre budget, il était de combien avant, pour avoir la comparaison à peu près?
Avant, j'avais quand même un salaire de 5 000 euros qui correspondait à 5 000 euros par mois actuel.
Ah oui, donc la différence, elle est sensible,
énorme. Tout à fait. Puisqu'on ne vous tient pas en compte automatiquement dans les indemnités sécurité sociale, on ne vous inclut pas automatiquement vos commissions.
Tout à fait.
Tout dépend comment ils les ont déclarées.
Alors, comment vous en êtes venu à contacter Crésus? Qui vous en a parlé?
Alors, moi, je suis venu chez Crésus par l'intermédiaire d'une avocate.
Oui.
Qui m'a dit, et d'une assistante sociale. Et donc j'ai pris contact avec Crésus qui était encore à l'époque rue de la Première Armée, à l'angle de la rue de la Première Armée et rue Sébot, voilà.
Rue Célio, oui.
Et donc j'ai reçu un accueil vraiment chaleureux. Une avocate ou une conseillère, c'était pas une avocate, c'était une juriste qui vraiment s'est donnée, a fait un travail
à 200%. Irréprochable. Oui.
Ah oui. Ouais. Et un soutien psychologique, parce que j'avais quand même un peu honte de planter tout le monde.
Alors oui, c'est important ce que vous dites, et c'est vrai que chaque fois cette dimension psychologique est sous-estimée dans la problématique du surendettement, et pourtant c'est une dimension qu'il faut accompagner.
Tout à fait, parce qu'on ne sait pas si on est un escroc, si on devient escroc, si... par moment, on se pose la question si notre crédibilité, c'est pas de notre faute, parce qu'on s'est vulgairement fait avoir, je veux dire. Mais bon, ça remet en cause beaucoup de choses, à savoir est-ce qu'on peut faire confiance à un employeur, est-ce qu'on peut faire confiance à son entourage.
Est-ce qu'on peut se faire confiance à soi-même? Parce qu'il y a aussi une perte de confiance liée à ces événements qui nous...
Je dirais pas une perte de confiance en soi-même, c'est voir toujours les choses de manière positive. Est-ce que c'est positif en fait?
Oui.
Voilà. C'est surtout ça.
Alors, c'est vrai que vous avez parlé de votre statut de VRP. Il faut savoir que pour traiter les difficultés financières, il y a différentes procédures qui existent et elles ne sont pas toutes les mêmes et cela dépend de son statut professionnel, on va dire. En l'occurrence...
Ah oui, mais moi, vous me demandez le statut, entre-temps, j'étais devenu chômeur.
D'accord.
Donc là, pour la faillite civile, vous aviez des poursuites, des jugements, quelque chose...
Tout à fait.
D'accord.
Oui. C'est-à-dire qu'on m'avait dit que pour pouvoir faire ma faillite civile...
C'était obligatoire,
qu'il fallait que j'arrête de payer, ce que j'ai fait.
Oui.
Donc, j'ai enlevé tous les prélèvements qui étaient mis en cours sur mon compte bancaire. Et dès que j'ai reçu la première lettre d'huissier, après les différentes relances, et après une notification d'interdiction bancaire pour... pas d'interdiction bancaire, j'étais incident crédit.
Oui.
À ce moment-là, j'ai pu faire ma démarche et ouvrir mon dossier.
Oui, c'est vrai que la faillite civile, on peut pas l'enclencher tant qu'il y a des relances. Les relances suffisent pas. Il faut forcément une poursuite d'un huissier ou un jugement. Il faut un titre exécutoire. Voilà, c'est ça.
Exécutoire et voilà.
Oui. Et quel a été le résultat de la faillite civile?
Ah, on m'a prononcé la faillite civile.
D'accord.
J'ai été donc. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait. Là aujourd'hui, je me confronte à des problèmes. Apparemment, beaucoup d'organismes ainsi que d'administration, au bout de 10 ans, normalement, on est censé, pour certains, 5 ans, pour d'autres, 10 ans, au bout de 10 ans, on est censé être effacé d'un certain nombre de choses. Donc pour cela, moi maintenant, je suis obligé de faire un recours. Quand vous m'avez appelé, quand on s'est contacté dernièrement, c'est ce que je vous expliquais, qu'il y avait quand même pas mal de...
Alors Didier, oui, est-ce que votre situation, elle est aujourd'hui stabilisée, elle est réglée, ou est-ce qu'il y a de nouvelles difficultés?
Alors il y a de nouvelles difficultés. D'accord. Dans le sens où j'ai une ALD. J'avais eu un cancer, puis maintenant une sclérose en plaques.
Ok, donc ALD, donc, juste pour nos auditeurs.
Affection longue durée.
D'accord.
Pour la sclérose en plaques. Et donc, ma situation ne s'est pas vraiment arrangée. Et elle s'est arrangée dans le sens où je fais attention à mon budget.
Oui, oui.
Vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr.
Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire... que quand je demande même un crédit de dépannage de 1 500 € quelque part, il y a toujours encore cette traçabilité. D'où maintenant que je vais prendre contact avec la CNIL pour que tout ça soit évacué.
D'accord, Didier, si je comprends bien, oui, vous nous dites que, ok, vous aviez à un moment donné, il y a une dizaine d'années, un problème lié à un employeur indélicat qui s'est terminé par une faillite civile. Alors une faillite civile, il faut bien préciser que c'est une procédure qui est bien spécifique à l'Alsace-Moselle. Hein, qu'on ne retrouve
plus. À l'époque, oui.
Oui, mais toujours aujourd'hui. Hein. C'est toujours une spécificité du droit local d'Alsace-Moselle qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en France. Hein. Voilà. Donc, vous avez trouvé une solution à travers cette faillite civile. Il y a eu effectivement une liquidation et vous êtes reparti à zéro. Mm-hmm. C'est le principe. Hein.
Tout à fait.
Et entre-temps, effectivement, ou depuis, une maladie s'est déclarée.
Tout à fait.
Et par ailleurs, vous avez, on va dire, des reliquats, des casseroles, hein, par rapport à votre passé. Et c'est-à-dire que les établissements ont gardé des traces.
De traçabilité,
voilà.
Qui n'est absolument pas légale au-delà de 10 ans. Et donc,
alors on part,
à leur égard, c'est d'informer la CNIL pour qu'ils fassent leur travail et qu'ils les verbalisent et qu'ils soient obligés de me... d'effacer, puisque le but d'une faillite, c'est d'effacer les dettes.
Oui, donc là, un peu, c'est le droit à l'oubli que vous invoquez.
Le droit à l'oubli.
Oui, parce que c'est bien ça dont il s'agit. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on a eu on est passé par un chemin difficile dans sa vie, eh bien, on a le droit aussi, à un moment donné, lorsqu'on est sorti de cette difficulté, de passer à autre chose. Et malheureusement, on sait qu'avec les systèmes informatiques, les éléments peuvent rester longtemps. Et ça ne doit pas vous porter préjudice. Alors, on voit bien qu'effectivement, le travail n'est pas fini. Hein, je crois que ça, c'est important, au niveau de la protection des libertés. Alors, on parle de cette traçabilité. Est-ce que vous, par rapport au fichier des crédits, vous savez que Crésus milite pour défendre un fichier des crédits, c'est-à-dire un registre qui reprendrait l'ensemble des crédits des consommateurs pour éviter le crédit de trop.
Tout à fait.
Quelle est votre position par rapport à ce fichier positif?
Je suis 100% d'accord.
Vous êtes 100% d'accord. Donc, dans la protection du consommateur,
à côté de ça, parce qu'à côté de ça, l'hypocrisie de tout ce système-là, c'est que même si on ne vous l'accorde pas, vous recevez toujours dans votre boîte aux lettres des publicités de certains nombreux organismes de crédit qui vous dit vous avez le droit à 1 500 ou à 3 000 €.
Ça vient régulièrement, oui.
C'est de manière aussi bien régulière, de manière mail, que de manière... Moi, pendant les dix années où je savais que j'étais fiché quelque part, je renvoyais un mot en disant « Je ne comprends pas comment vous pouvez vous permettre quelqu'un qui pendant 5 ans n'a pas le droit de faire de chèque, pas de chèque, de crédit,
du crédit
ou quoi que ce soit. Comment se fait-il en vous ayant planté, en ayant fait une faillite civile ?» Vous avez l'audace de m'envoyer. Je n'ai jamais reçu de réponse de leur part.
Bon, il est clair que le système, c'est comme un rouleau compresseur. Hein. On va continuer à vous solliciter. On voit même des personnes que nous accompagnons aujourd'hui dans le cadre de la procédure de surendettement qui continuent à recevoir des publicités, des relances de leurs créanciers, alors même qu'ils sont en situation de contentieux avec ces mêmes créanciers.
Donc non, mais moi, je ne parle pas de relance.
Oui,
je
mais...
parle de relance pour...
Pour souscrire
au crédit.
Oui, mais c'est bien ce que je dis. Hein. C'est bien pour, c'est pas des relances pour impayés, c'est des relances pour souscrire un nouveau crédit. Donc on est bien dans ce schéma-là. Alors
aujourd'hui,
on peut l'appeler comme ça. Alors Didier, juste une question par rapport à votre situation actuelle d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez sollicité Crésus récemment? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous avez besoin de nos services?
Oui, j'ai fait appel à vous parce que j'ai eu un problème au mois de novembre d'impayé.
Oui.
Par rapport à la sécurité sociale qui facilite pas plus les gens malades, hein, d'autant plus les gens qui sont en invalidité à 80%. De temps en temps, on retarde les paiements.
Oui.
Pour un problème de trésorerie. Je me suis retrouvé pendant 3 mois sans mon invalidité sous prétexte que soi-disant je n'aurais pas remis un papier.
D'accord.
Et que c'était faux puisque je leur avais déposé moyennant tampon sur le double.
D'accord.
Soi-disant, on ne le retrouvait pas.
Didier, est-ce que vous avez une réponse aujourd'hui? Est-ce que ça a été réglé?
Pas du tout, parce que j'aurais dû faire un. Pourquoi je n'ai pas donné suite? Parce que on m'a expliqué qu'il fallait faire un plan d'épurement. Malheureusement, moi, faire un plan d'épurement de dette. Ça m'était impossible puisqu'il y a un an j'ai repris des études et pour m'installer en profession libérale et je ne peux pas mettre un plan d'épurement si je veux pouvoir monter ma propre structure.
D'accord.
Donc j'ai dû renoncer et chercher d'autres moyens, c'est-à-dire par des leviers d'amis que je rembourse comme je peux. Voilà.
Alors on voit que le chemin est long. Aujourd'hui, si vous avez un conseil pour terminer notre interview, est-ce que vous avez des choses à dire à nos auditeurs sur un conseil?
Sur le conseil, la faillite civile m'a été très bénéfique, sauf que les imprévus de la vie, comme les maladies, peuvent faire replonger très facilement.
Bien. On n'est jamais protégé, mais je crois que à un moment donné, il faut s'entourer de personnes qui peuvent vous aider, ça c'est important.
Non, il faudrait qu'il y ait un collectif pour se défendre par rapport aux gens qui ont une maladie, qui ont des difficultés, et malheureusement en France, rien n'est fait pour le handicap. On fait des choses, mais qui ne sont absolument pas adaptées. Quand vous savez que vous devez aller vous présenter 3 fois à la MDPH, que la MDPH est à 15 minutes à pied du tram pour des gens qui sont handicapés, c'est vachement bien adapté. La sécurité sociale qui vous fait déplacer pour des papiers qu'il suffirait d'envoyer par mail, c'est pas plus adapté. Et rien n'est adapté, malheureusement.
Et on
ne tient pas en compte ça. Voilà.
Merci.
Et pour les gens qui sont en longue maladie comme ça, on aurait le droit de refaire une faillite à mon goût.
Il y a encore beaucoup de travail, Didier. Merci beaucoup, Didier. À vous pour
c'est moi qui vous remercie.
À très bientôt. Au revoir.
À très bientôt. Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, la radio qui vous aide.
Vous êtes toujours sur Radio Crésus, nous avons entendu Didier et c'est à présent Marie-Paul qui témoigne. Marie-Paul ?
Oui ?
Oui, bonjour, vous êtes sur Radio Crésus et vous avez des choses à dire à nos auditeurs.
Oui. Que j'aurais à dire que s'ils se trouvent en difficulté financière, dans la première des choses qu'il faut faire, c'est se rendre à Crésus.
Alors ça, c'est le conseil, ça. Ça, on va le garder pour la fin, si vous voulez.
Oui.
Mais c'est important de le dire. Vous, dans votre vécu, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est ce qu'attendent aussi nos auditeurs qui voudraient savoir comment vous êtes arrivé à avoir une difficulté financière, comment vous avez réagi face à cette difficulté, quelles sont les réponses que vous avez trouvées ou que vous n'avez pas trouvées.
Oui. Alors voilà, donc nous, il se trouve qu'on avait des grandes difficultés financières familiaux particulièrement. Suite à une succession, il y a beaucoup d'histoires... autour de tout ça, et puis bon, bien sûr, on avait d'autres difficultés financières venant à droite à gauche, et il se trouve que on se trouvait déjà en procédure, on avait déjà un avocat, mais on n'était pas satisfaite
Alors,
parce qu'on n'avait pas de réponse.
Oui,
pas de réponse.
Marie-Paul,
on est allé voir.
La difficulté, elle était née quoi? D'une succession de...
Oui, c'est une histoire de succession.
Oui.
Accompagnée avec d'autres problèmes venant de toutes parts.
Donc, vous avez une grande famille?
Il y a pas mal d'héritiers, oui.
Oui, oui.
Et en quoi
la succession? Parce qu'en principe, alors la succession, on espère un héritage, on espère de l'argent. Quelquefois,
voilà,
ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on a plus des dettes que des... Est-ce que c'était le cas? Non, il y avait de l'argent. Ou il y avait
c'était
un patrimoine. D'accord.
Oui, tout à fait, c'est un patrimoine de famille.
Mais alors, comment est-ce qu'on peut être en difficulté financière lorsqu'on va recevoir de l'argent?
Parce que tout simplement, nous avons vécu dans la maison familiale et que... la fratrie nous demandait des loyers à payer. Puis,
et c'était important
n'ayant pas d'argent.
C'était important.
Oui, 600 euros par mois qu'il fallait payer. Et voilà, on n'avait pas l'argent nécessaire parce que mon conjoint, lui, il était en chômage. Et puis voilà.
Donc vous aviez peu de revenus.
Très peu.
Donc, vous avez effectivement décidé de dire, on va occuper le logement familial le temps que la succession se règle, c'est ça?
Voilà. Oui.
Mais la fratrie n'était pas d'accord de vous laisser le bénéfice gratuit de cet usage.
Voilà.
Hein. D'accord. Ouais. Et donc, alors, ça s'est un peu envenimé ou...
Oui, ça a énormément envenimé. Beaucoup d'histoires autour de tout ça, parce qu'après, il y a plein de choses qui s'enchaînent. Hein.
Donc, au final, ils vous réclamaient beaucoup d'argent parce que si ça...
On était rendus... on avait 15 000 euros pour eux et puis d'autres 15 000 venant à droite à gauche. On avait les 30 000, hein, on était quasiment à 30 000.
D'accord. Et ça, normalement, c'est à déduire de votre part que vous auriez dû toucher, c'est
voilà,
ça?
Voilà, exactement, justement. Oui, tout à fait.
Et vous deviez toucher combien au niveau de la succession?
Au niveau de la succession... écoutez, je pense aux alentours de 50 000.
D'accord. Et vous étiez d'accord pour payer ces 30 000 ou vous avez...
Non, on n'était pas d'accord, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on est amené à faire une demande en surendettement, hein, et puis voilà, donc... ça n'a abouti à rien, on n'a pas eu gain de cause, parce que...
Justement, alors expliquez-nous. Donc là, vous aviez donc des revenus modestes.
Oui.
Combien par mois pour le couple, à peu près?
Écoutez, c'était tout au début de cette histoire, on arrivait à plus de 10 000 euros.
Alors, les revenus sur les par mois, combien vous touchiez pour vivre?
Pour vivre, écoutez, c'est simple. Le surendettement nous acceptait d'avoir... ils acceptaient d'avoir un revenu de à peu près de... Faut pas que ça dépasse les 1500 euros. C'était ça.
Oui, alors...
Le règle à eux. Et nous, on était à 2200. Ça, c'était dans le premier temps, parce qu'on était, on était en chômage.
OK, donc si
mais
je...
Mais on
voilà.
est arrivé après donc, à 600 euros.
Oui,
hein,
pour
on
qu'on...
est arrivé à 600 euros.
Voilà, pour qu'on comprenne bien, au début, vous aviez à peu près 2200 euros par mois pour vivre, à deux, c'est ça?
Voilà.
À trois, vous aviez
un enfant
à charge, d'accord. Et ensuite, effectivement, baisse de revenus.
Ah oui, tout à fait.
OK. Et il vous restait combien pour vivre ensuite?
Là, c'était... il avait le SS, hein, je pense que c'est ça. Il a pris le RSA. Donc, 600 euros. Et le RSA, ça dépendait. On n'avait pas les 800. On n'avait pas le minimum vital.
En tout cas, moins de 1000 euros par mois à 3, ça, c'était clair. Hein. Donc, ce qui fait qu'effectivement, vous avez occupé le logement... familial sans payer de loyer forcément puisque il faut bien manger et voilà.
Bien sûr.
Voilà. Et donc vous avez décidé de déposer un dossier de surendettement.
Oui.
Avec le soutien de Crésus ou sans le soutien?
Alors donc comme dit, on était déjà en procédure.
D'accord.
Mais comme l'avocat nous disait pas grand-chose, on est allé voir ailleurs pour avoir des renseignements. Et quand elle a appris qu'on avait pris des renseignements à droite à gauche, il ne faut surtout jamais rien dire que vous allez dans d'autres associations, parce qu'ils n'aiment pas qu'on aille consulter des associations juridiques. Ça, c'est d'emblée. Mmh. Alors donc on est amené d'une manière ou d'une autre chercher des informations à droite à gauche, et puis Crésus, franchement, c'est le top. Voilà.
Bon, c'est ça c'est dit, hein. Voilà. Alors, je crois que ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'à un moment donné, vous êtes allé vers un professionnel, alors qu'il soit avocat, par exemple, hein, les avocats peuvent vous aider dans la démarche. Et bien sûr, c'est un coût. Il faut l'assumer.
Mais on avait l'aide juridictionnelle.
D'accord. Alors, c'est important de le rappeler aussi, hein, en fonction de vos ressources. Et manifestement, vous étiez en dessous du seuil. C'était certainement l'aide juridictionnelle totale à laquelle vous aviez droit.
Ah oui, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
Donc, l'avocat a décidé de vous défendre dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale. Mais manifestement, les relations manquaient un peu de lien, on va dire, hein, et d'information. OK. Donc, vous allez voir le milieu associatif. Dans le milieu associatif, il y a une structure Crésus que vous allez voir, OK ?
Oui.
Qui vous aide dans la démarche, la procédure ?
Oui.
D'accord. Donc, la procédure, elle est menée jusqu'au bout ? C'est-à-dire que, est-ce que la commission vous a proposé un plan de redressement ?
Non, toi, tu as été pris en main par l'avocat, mais nous, on avait eu des informations, quoi.
D'accord. Donc, vous veniez auprès de Crésus pour conforter vos informations,
oui,
c'est
et
ça?
Et ça, c'est très important aussi. Allez-y chez Crésus, au moins que vous ayez des informations, parce que c'est des compléments que vous pouvez apporter à l'avocat, mais ne dites pas que vous ne savez pas une information, vous le dites, oui, par des associations, mais que vous l'avez cherché vous-même, vos informations. C'est très important.
Donc, ça a aidé dans le règlement de la difficulté. Ça a apporté,
oui, ça.
D'accord.
Oui,
et aujourd'hui, vous en êtes où aujourd'hui par rapport à cette procédure ?
Eh bien, alors, on n'a pas eu gain de cause parce que l'adversaire.
C'est qui,
donc, est la fratrie. L'adversaire qui est donc la fratrie, parce que tout le monde était d'accord de dégréver la somme. Tout le monde était d'accord. Sauf une seule personne, c'était l'adversaire, c'était la famille.
Oui, d'accord.
Et la famille, ils avaient un très bon statut, ils ont bien mené ce dossier et on a été débouté.
D'accord. Alors, pour comprendre, quand vous avez déposé le dossier de surendettement, normalement, vous indiquez l'ensemble de vos créanciers.
C'est ça.
Donc, des personnes à qui vous devez de l'argent. Alors, il y avait évidemment la fratrie dans le cadre de la succession et de l'occupation du logement, d'accord ?
Oui.
Est-ce qu'il y avait d'autres créanciers ? Est-ce qu'il y avait des banques ?
Ah oui, parce qu'on avait justement, on a eu d'autres créanciers. Bien sûr, il y avait d'autres créanciers. On avait un crédit. On avait de l'argent aussi à donner dans la famille parce qu'on nous avait prêté de l'argent.
D'accord.
C'était reconnu, hein. J'ai eu à déposer des justificatifs.
Donc c'était un crédit avec reconnaissance de dette en bonne et due forme.
Oui, OK. Vialis, plein de trucs comme ça.
Donc Vialis, ça c'est le fournisseur d'énergie.
Oui, c'est ça.
C'était pour le gaz ou pour le, c'est ça?
Tout l'ensemble.
D'accord. Donc il y avait quand même des impayés qui étaient assez généralisés, hein, votre situation.
Oui, tout à fait,
d'accord.
Exactement.
OK. Ouais. Alors vous déposez le dossier, il est recevable, c'est-à-dire que la commission elle accepte de le traiter.
Oui.
Oui, et un des créanciers, en l'occurrence la fratrie, refuse, en tout cas se défend et dit que vous n'êtes pas de bonne foi, c'est ça ce qu'ils ont dit?
De toute façon, hein, qu'on pourrait aller travailler, plein de trucs comme ça.
D'accord,
quoi.
Donc ils ont remis en cause votre bonne foi et dans ce cas-là, c'est le juge qui doit contrôler et c'est passé devant le juge.
Ça s'est passé devant le juge, mais c'est vrai, bon, je ne vais pas dire les noms, hein, mais il y a un grand hic. C'est que, on a tenté de nous saisir aussi, hein. Il y a eu l'huissier. Hein.
Alors après, effectivement, une fois que la commission et le juge, par son contrôle, ont dit le dossier est irrecevable, vous n'êtes plus protégé par la procédure de surendettement. Et donc, il faut bien comprendre une chose,
Marie-Paul. Oui, mais c'est que le juge, ce que j'avais envie de dire, c'était, c'est triste à dire, mais c'était l'épouse de l'huissier. Qui déjà nous avait saisi pour qu'on soit expulsé. C'était lui qui était venu nous dire vous avez une expulsion, vous devez partir de cette maison. Et il s'avérait que on devait de l'argent à cet huissier et dans les dettes il y avait aussi l'huissier. Et il se trouve que le juge était.
Vous nous dites que le juge est marié à l'huissier qui vous poursuivait, c'est ça?
Voilà, tout à fait, exactement. Et justement, c'est là où Crésus intervient. Alors il dit comme ça, mais il n'y a rien d'étonnant, hein. Sous les oreillers, on peut se dire des choses. Hein.
Ah bon. Alors bon, c'est les choses se passent peut-être pas comme ça, mais en tous les cas, vous n'avez pas eu de réponse satisfaisante par rapport à la justice, hein, qui a maintenu la position de la fratrie, c'est-à-dire que vous êtes de mauvaise foi et du coup, vous êtes sans protection de la procédure de surendettement.
Voilà.
Les actes de saisie se poursuivent, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
D'accord. Et aujourd'hui, vous en êtes où aujourd'hui ?
Eh bien, justement, donc, il a continué, c'est ici, à venir chez nous. Et il a tenté déjà, tout au début de la procédure, quand il avait mis 200 euros, il lui avait saisi sur le compte 350 euros, je crois, à peu près.
Donc, les saisies se font.
Sur
OK. Alors, il faut...
On appelle ça sur saisie sur... Bah, il nous restait 800, quoi, c'est ça. 800,
sur
900, oui. 1100... Oui, 350 euros à peu près. Il nous avait saisi sur les 1200 et des poussières. Et plus tard, quelques années plus tard, c'était 9, 10, 11, 12. En 2012, il revient à la maison et pour voir si on paye.
Aujourd'hui, Marie-Paul, donc, et les saisies qui ont eu lieu en 2012, où vous en êtes aujourd'hui ? Aujourd'hui.
Enfin, aujourd'hui, on est très loin, on est au procureur de la République.
Ça, c'est du pénal, ça. Ça, c'est autre chose.
Oui, parce qu'il y a des détournements.
Ah bon. Donc, il y a d'autres affaires qui se rajoutent, mais je crois qu'on va s'en tenir au-delà du pénal, parce que ça ne nous intéresse pas trop l'aspect pénal. Mais
oui.
ce qui est important, c'est surtout de comprendre qu'aujourd'hui, effectivement, vous aviez déposé en son temps un dossier de surendettement, déclaré
oui.
irrecevable pour absence de bonne foi, que du coup,
oui.
vous êtes retombé dans le droit commun des poursuites, et les créanciers se sont réactivés hein,
oui.
et ont diligenté les huissiers pour obtenir leur argent.
Voilà.
Voilà, donc là on est vraiment dans cette procédure-là.
Oui.
Et là, dans ce cas-là, effectivement, il faut se défendre face
oui.
à chaque créancier pour obtenir soit des délais de paiement, soit des arrangements, tout en sachant que normalement, l'huissier qui exerce une saisie sur vos rémunérations, par exemple, ne peut pas tout vous prendre.
Donc, il a pris sur les 600 euros, une fois 30 euros et une fois 50 euros. On a hurlé aux assidiques.
Oui.
Il a donné de l'argent. On a hurlé au tribunal, on m'envoie au tribunal.
On hurle
à la juge de l'exécution. Et puis, il se trouve que finalement, la juge de l'exécution, elle a reconnu, elle nous a remboursé, elle nous a envoyé un chèque.
Mais ça, c'est intéressant, ensuite... ça. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire qu'effectivement, lorsqu'il y a des abus, à un moment donné, en matière de saisie, il y a des
oui.
moyens de défense.
Et je lui ai dit, c'est ici, je suis désolée, vous avez fait des actes qui ne sont pas justes. Et alors, il me dit, mais montre-moi la lettre. Je lui dis, je ne sais pas où elle est, parce qu'heureusement, je ne l'ai pas montré, mais effectivement, il n'a plus osé revenir.
Voilà, alors Marie-Paul, c'est important. Est-ce que vous avez pris conseil auprès d'un juriste pour obtenir ces informations, auprès d'un avocat auprès...
Je suis en contact de plein de trucs, comme aujourd'hui, on est en contact avec Accord 68, qui nous aide beaucoup.
D'accord.
Aide aux victimes aussi.
Donc ça, c'est une association.
On est très aidés par toutes ces associations.
D'accord. Alors aujourd'hui, Marie-Paul, la situation, elle est toujours difficile ?
Oui. On est égorgés. Oui, tout à fait.
C'est un mot fort, ça, que vous utilisez.
Hein? Vous
voulez dire qu'on...
Intérimaire par la main, mais voilà.
En tout cas...
On attend quand même la soixantaine d'années. On a un enfant de bas âge, très tardément, on l'a eu.
Alors Marie-Paul, ce qu'on comprend bien, c'est que vous êtes saigné à blanc hein, au niveau de vos créanciers et que c'est pas simple. Pour terminer sur votre témoignage, si vous aviez un conseil à donner, en deux mots.
Si j'ai un conseil à donner, n'allez pas aux avocats. J'ai ma sœur qui a pris un avocat pour aller en surendettement. Et je lui ai conseillé vivement Crésus, mais elle ne l'a pas fait. Et elle s'est vue devant cet avocat lui dire, mais enfin, écoutez, vous ne pouvez pas vous aider par vos enfants. Vous imaginez un petit peu, elle a fait un procès contre cette
oui.
personne. Elle a eu gain de cause, ma sœur. Mais n'allez pas voir un avocat.
Alors, Marie-Paul, on sera plus nuancé. On comprend que vous soyez remonté contre les avocats, en tout cas contre au moins un avocat, ça c'est clair.
Oui.
Maintenant, je dirais que chacun a son rôle à jouer dans notre société. Et les avocats, on le sait, ils ont un travail à faire qui est bien précis. Et des fois, effectivement, on a du mal à trouver une écoute. par rapport aux avocats. Mais pour autant, ça, il ne faut pas dénigrer systématiquement
non,
le...
Sûr,
on
non,
est bien d'accord. Hein. Je crois que ça, c'est important. Crésus travaille avec des avocats.
Ah, hein.
On a, ben, voilà, donc il y a des avocats qui s'engagent aussi pour la cause de Crésus. Et, et c'est important d'avoir cette expertise juridique qu'ont les avocats.
Non, hein,
je crois que ça, c'est...
Voilà.
Marie-Paul, je vous dis merci.
Merci.
Et surtout, bon courage pour la suite.
Hein. Merci beaucoup. Merci,
à bientôt sur Radio Crésus. Au revoir.
Crésus. Crésus, la radio qui vous aide. Crésus. Crésus, la radio qui vous aide.
Vous êtes toujours sur Radio Crésus, la radio qui vous aide, la radio qui vous écoute. Et nous écoutons sans tarder Caroline.
Bonjour.
Oui, bonjour Caroline. Vous êtes sur Radio Crésus.
Oui.
Voilà, vous connaissez le principe de l'émission. Ce sont des témoignages de personnes qui vivent une difficulté financière notamment, mais pas seulement.
Oui.
Et vous avez l'occasion aujourd'hui de vous exprimer pour que nos auditeurs, auditrices bien, trouvent aussi des solutions à travers votre vécu.
D'accord, il n'y a pas de souci.
Voilà, alors expliquez-nous ce qui vous est arrivé et comment vous en êtes sorti ou si vous êtes toujours dans la difficulté aujourd'hui.
En fait, donc moi, je pense, mon témoignage va ressembler à beaucoup de personnes qui sont dans ma situation. En fait, le surendettement, c'est pas venu comme ça. En fait, c'est suite à plusieurs événements qui ont fragilisé ma situation. En fait, j'ai divorcé en 2006.
Oui.
Donc, le divorce, en fait, c'est comme un deuil, vous voyez. Donc, c'est pas une séparation. Donc, c'est en général, c'est des événements qui font que les personnes s'isolent. On a des enfants, on est seul, donc c'est pas évident. Et donc, j'avais déjà des crédits, donc lors de mon mariage.
Oui.
J'avais déjà aussi une relation avec l'argent qui était pas évidente. Voilà, j'étais quelqu'un d'assez compulsif. Dans les dépenses, parce que je compensais des...
Est-ce que ça a été... vous n'êtes pas obligé de répondre, mais est-ce que ça a été une cause de la séparation, ces achats compulsifs ou
comment?
Si c'est... Est-ce que ça a été une des causes de la séparation ou pas?
En fait, l'argent, c'est toujours une cause dans les couples de... Comment dire de... De conflits. Donc, après, c'est pas la cause majeure.
D'accord.
Mais ça a quand même amplifié les sources de conflits ou de tensions. Voilà.
Oui, parce que
c'est pas la cause majeure.
Voilà, si je me permets de vous en parler, c'est parce qu'on rencontre souvent à Crésus des personnes qui viennent nous voir. Qui sont ensemble et à un moment donné, eh bien, effectivement, les problèmes financiers font que les personnes se séparent.
Ouais. Hein, les problèmes financiers, c'est sûr que ça aggrave les tensions. En plus, derrière l'argent, psychologiquement, il y a toujours des sources de l'un qui va avoir un pouvoir sur l'autre. L'argent génère beaucoup de conflits, il y a beaucoup de trucs psychologiques derrière, donc
on comprend bien le divorce, cette séparation, ça a été un des événements qui vous a plongé dans la difficulté financière. Ça, donc c'est ça, un premier.
La difficulté financière, parce que vous savez très bien que les femmes seules, déjà une femme gagne moins qu'un homme déjà.
Oui.
En plus, moi j'ai 3 enfants, donc je me suis retrouvée avec beaucoup moins de revenus qu'avant,
oui.
Dans une situation d'insécurité financière, parce que j'étais pas en CDI, donc d'instabilité. Donc déjà, moi, j'avais un terrain, de par mon échange personnel, fragile, voilà. Donc, j'ai subi de la violence conjugale.
D'accord.
Donc déjà, j'étais fragile, donc je pouvais pas tout gérer. Entre l'éducation des enfants, le divorce, l'argent.
Oui.
Donc du coup, dans mon histoire personnelle, j'avais été beaucoup bridée. Donc quand je me suis retrouvée seule, je me suis complètement lâchée pour compenser.
Vous avez besoin d'un cadre rassurant, mais quelque part, si vous n'avez pas des repères, c'est difficile effectivement de.
Quand on divorce, souvent on se retrouve. Enfin, pas toutes les familles. Moi, je me suis retrouvée seule.
Oui.
Ma famille ne me parlait plus, me suis retrouvée vraiment seule.
En tout cas, isolée. Parce que voilà, vous aviez vos enfants et vous aviez tout le poids.
L'isolement, je pense, dans beaucoup de cas de personnes en surendettement, on a tous ce point commun.
Oui, vous avez raison. Que l'isolement, il préexiste peut-être à un moment donné à la difficulté, c'est vrai, mais aussi le fait d'être surendetté, d'avoir une difficulté, on a tendance soi-même à s'isoler aussi, à ne pas participer aux activités, etc., par peur qu'on...
On a plus de
vie sociale.
De milieu social, on a une perte de confiance totale. Donc, c'est vrai que... le manque de confiance en moi, c'était déjà zéro quand j'étais mariée ou de par mon histoire. Donc, ça a précipité beaucoup de choses à ce niveau-là. Manque de confiance en soi, isolement social, ça joue beaucoup.
Alors, quels sont les autres, Caroline, quels sont les autres éléments, donc le divorce, on l'a bien compris. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous ont précipité vers le surendettement?
Moi, peut-être, je sais pas, ma relation à l'argent.
Oui, vous parliez de vos achats compulsifs, c'est ça?
C'est-à-dire que, comme mon ex-mari m'avait fait subir la violence financière, alors c'est compliqué, il faisait beaucoup de pression par rapport à l'argent.
Oui.
Il y avait souvent des conflits violents, donc la violence liée à l'argent. T'as pas le droit d'utiliser l'argent, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça.
Concrètement, ça se passait au quotidien, c'était pourquoi t'as dépensé ça, pourquoi...
Voilà, tout à fait, mais même pire, des fois, c'est carrément arracher la carte bleue des mains, je sais pas,
proférer
des menaces physiques par rapport à l'argent, etc.
Donc là, on est dans le contexte des violences conjugales, ce dont vous parliez, d'accord.
Moi, en fait, j'avais une relation à l'argent très difficile, c'est-à-dire que dès que je me retrouvais devant un distributeur... De billets, j'allais chercher des billets, même 20 euros, je tremblais, enfin voilà. Donc j'avais beaucoup de difficultés psychologiques par rapport à l'argent, par rapport aux papiers administratifs.
Et aujourd'hui, est-ce que vous les avez surmontées, ces difficultés?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait un travail avec une psychologue, donc c'est pour ça que maintenant j'arrive à témoigner. J'ai surmonté toutes ces difficultés, donc tous mes blocages liés à l'argent, aux papiers administratifs et tout, ont presque disparu.
Alors,
maintenant, vous pouvez les affronter.
Oui, alors si on peut parler un peu des blocages par rapport à l'argent, vous expliquez effectivement devant le distributeur automatique, vous étiez tremblante à savoir si vous deviez prendre 20 ou... Est-ce qu'il y a d'autres manifestations par rapport à ce rapport à l'argent?
J'avais une peur panique si je devais avoir 200 euros d'un seul coup. Par contre, vous voyez, je dépensais des petites sommes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est complètement idiot parce que vaut mieux retirer en une seule fois 200 euros plutôt que dépenser 10 euros à chaque fois. On dépense tous, vous voyez, des trucs comme ça.
Oui.
Pour faire des courses, c'était très difficile pour moi d'aller faire des courses, par exemple, pour la semaine ou pour le mois. Très difficile pour moi. C'était carrément insurmontable de prêter de l'argent à quelqu'un psychologiquement. Alors je suis quelqu'un de très généreuse, voyez, mais il y avait un espèce de blocage qui est lié à mon histoire personnelle, qui est lié à la violence financière que j'ai pu avoir sur moi. Donc du coup j'ai eu des séquelles, donc pour moi aller voir une conseillère à la banque, c'était toute une histoire. C'était vraiment très difficile.
Et aujourd'hui, vous êtes libéré de cette contrainte parce que vous êtes allé voir. Aujourd'hui, vous êtes libéré de ces.
Ces blocages disparaissent. Bon, j'ai fait un travail quand même de. Le divorce remonte à 2006. Donc, vous voyez, travail psychologique pendant au moins 8 ans. Et Donc maintenant, j'ai intégré des choses, j'ai compris des choses. Donc, je me retrouve en situation de surendettement actuellement. D'ailleurs, je l'ai mis dans l'aide par rapport à la Banque de France. C'est parce qu'il y avait tous ces blocages psychologiques, parce que souvent les personnes elles ont avec elles une histoire personnelle et les gens comprennent pas. Évidemment, la banque elle va pas apprendre tous les éléments psychologiques mais les gens en fait ont des problèmes voyez, pour surmonter, pour affronter, pour
ce dossier
d'argent.
Oui, ce dossier de surendettement, vous l'avez déposé récemment?
Je suis en train de le constituer. Bon, d'accord. Je fais appel à votre association
pour monter.
Prendre rendez-vous pour
monter le dossier.
Vous voyez, le dossier de surendettement, en fait, maintenant, je suis prête à le finaliser, à le déposer.
D'accord.
Mais ça fait 3 ou 4 fois que j'aurais dû, vous voyez, le...
Oui.
Voilà, y a, mais les blocages disparaissent, donc c'est l'essentiel, hein, c'est pas...
Vous tardez un peu encore, vous hésitez à déposer ce dossier ou...
Non, maintenant,
d'accord.
Ça va beaucoup mieux, donc j'ai plus qu'à prendre rendez-vous auprès de votre association, aller voir, qui est très bien, parce que je trouve qu'elle aide vraiment les personnes... Ils sont dans une situation parce
c'est notre objet, oui, oui. C'est vraiment notre raison d'être à Crésus.
Voilà,
c'est notre objet statutaire.
Oui. C'est vrai que souvent les personnes en surendettement se croient les seules sur terre.
Alors Caroline, oui. Quand on parle de surendettement, on aime bien avoir une vision de ce que c'est le surendettement concrète. Est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, des dettes que vous avez inscrites dans votre dossier de surendettement? C'est des dettes de loyer, c'est des dettes de crédit, c'est des dettes
pour moi, c'est des dettes de loyer.
Beaucoup, oui.
C'est des dettes...
Donnez des chiffres un peu pour qu'on arrive à s'imaginer.
Je chiffrer ça, vous voyez, maintenant. Ben voilà, mes blocages sont disparus parce que maintenant, j'arrive à donner une notion concrète. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas non plus, quand on est... En blocage, la notion de l'argent n'a pas la même valeur. Donc maintenant, moi, ça s'estimerait à peu près à 20 000 euros.
Combien? 20 000?
Oui, oui.
La globalité des dettes?
Oui, oui, tout à fait.
D'accord.
Il y a des personnes... Et voilà, bon, alors...
Et vous gagnez...
20 000, c'est con.
Oui. Vous gagnez combien aujourd'hui, concrètement? Vous gagnez combien?
Ah, alors là, je suis au RSA, donc...
D'accord.
Je suis au RSA. Après, j'ai des projets professionnels aussi, donc...
D'accord.
Je voudrais aller vers les métiers du social, me former, tout ça.
Donc ça c'est dans les projets. C'est bien d'avoir des projets dans la vie parce que c'est le moteur.
Ah oui,
Donc,
mais je sais très bien que tant que ma situation financière, j'ai pas déposé parce que psychologiquement c'est très important. En fait, voyez, de régler ces difficultés, de les affronter.
Oui.
Donc je sais très bien que si je dépose le dossier à Banque de France, psychologiquement, ça voudra dire que voyez, j'ai avancé.
Est-ce que l'accompagnement Crésus, l'aide Crésus, est-ce qu'elle a un impact sur votre morale?
Ah oui, tout à fait. Bah, voyez, d'ailleurs, il y a une conseillère du relais social qui m'a dit « Bah, pourquoi vous ne faites pas appel à nous ?» Je lui ai dit « Bah, écoutez, psychologiquement, c'est très important pour moi d'aller plutôt vers Crésus que vers vous parce que c'est une démarche active. Alors que si vous allez dans un... les travailleurs sociaux sont très importants, bien sûr.
Oui.
Mais ce qui est important, en fait, pour avancer... C'est d'avoir, voyez, d'être tracteur de...
Oui, et vous êtes en train de nous dire que la manière d'aider est différente.
Ah oui, tout à fait.
Oui.
Bah oui, non, mais même psychologiquement, je sais pas, vous voyez, le côté social et le côté votre association, c'est pas du tout pareil. Voilà.
Oui, parce que dans le discours et dans la philosophie de Crésus, c'est on va vous aider à vous reprendre en main, à reprendre en main votre budget.
Et donc, voilà, tout à fait.
Voilà.
Parce que aussi, la gestion du budget, vous voyez, maintenant, comme mes blocages ont disparu, donc vous voyez, je gère plus du tout mon budget comme avant, je fais plus d'économies, j'arrive à mieux vivre avec très peu de moyens par rapport à avant où j'avais plus de moyens et je gérais beaucoup moins bien mon budget. Donc, vous voyez, moi, mes progrès vont se voir par rapport à ma manière de gérer mon budget, de faire les courses.
Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise
avec je me sens beaucoup plus libre.
Oui.
Moi, chez moi, c'était vraiment, c'était une contrainte. Je me sentais carrément, j'ai employé un terme fort, pas esclave, mais j'étais complètement.
On peut le dire, on peut dire qu'on perd sa liberté. Oui, tout à fait. Est-ce que ce sentiment de liberté, en tout cas d'aisance dans la gestion du budget, cette liberté, est-ce que c'est suite aux rencontres avec Crésus ou est-ce que c'est par rapport au travail que vous avez fait avec la psychologue
Beaucoup avec mon travail psychologique parce que ma rencontre avec Crésus est très récente.
Oui.
Je dirais pas liberté, c'est plutôt autonomie.
Oui.
Voilà, c'est autonomie, c'est le terme. Juste, ça vient vraiment de mon travail psychologique sur moi-même.
D'accord. Mais c'est important, C'est important. Caroline,
c'est très important.
Caroline, si vous aviez, pour nos auditeurs, un conseil à donner, pour terminer votre interview, dites-nous.
Alors, le conseil, c'est surtout qu'elles essayent de ne pas s'isoler. Donc, qu'elles essayent d'aller à la rencontre, je sais pas, dès qu'elles ont une difficulté, de ne pas laisser s'accumuler les difficultés. C'est-à-dire que... Il faut
agir vite.
Vraiment
agir vite.
Dès qu'on a une... Comment ?
Il faut agir vite. c'est
voilà, ça. Voilà, c'est-à-dire ne pas laisser s'accumuler les difficultés. Pourquoi il y a le surendettement? C'est parce qu'on on accumule, et du coup, après, on se retrouve avec des difficultés énormes, et on culpabilise, parce que, vous voyez, la culpabilisation, c'est un frein, donc on culpabilise énormément. Les huissiers, tout ça, font beaucoup de pression aussi à ce niveau-là. Donc, faut pas non plus se laisser faire, les gens ont des droits. C'est pas parce qu'on a eu un moment de difficulté qu'on est des criminels, voilà.
Je crois que vous avez tout dit, Caroline. Hein, vous avez effectivement, vous avez dit l'essentiel. Hein, l'essentiel, c'est de dire effectivement, sortons de l'isolement si on y est. En tout cas, ne pas y entrer et ne pas hésiter à avoir des amis, de la famille, des professionnels.
Les amis, pas forcément des amis, mais voyez, à Strasbourg, il y a beaucoup d'associations.
Donc c'est là où on voit les vrais amis.
Par exemple, de l'écriture, voyez, ça m'a fait d'écriture. Donc, le fait d'avoir fait un atelier d'écriture, ça m'a sorti de mon isolement.
Alors, mon collègue, il y a Jean-Philippe qui est avec nous qui va.
Oui, Régis, en fait, c'est une question pour toi, en fait. Est-ce qu'il existe un meilleur moment pour venir voir Crésus?
Alors.
Comment?
Est-ce qu'il existe un meilleur moment pour venir voir Crésus? Est-ce qu'il faut venir très en amont? Parce que là, on est sur une situation qui dure depuis 8 ans.
Oui.
Voilà. Est-ce qu'il y avait un moment où on aurait pu avoir des choses qui se dégradent un peu moins?
Alors, Caroline.
Pas très bien,
oui, je vais répondre à la question de Jean-Philippe. Jean-Philippe posait la question. Oui. Est-ce qu'il y a un bon moment pour venir à Crésus? Quel est le meilleur moment?
Le meilleur moment, en fait, je suis allée parce que, vous voyez, je suis sortie de mes blocages. Après, tout dépend des gens. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils se culpabilisent beaucoup. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas agir, qui n'osent pas.
C'est vrai, Caroline. Et je peux apporter je vais apporter une précision. C'est vrai qu'il y a, un bon moment. C'est le moment où on se sent prêt, en fait. Alors, ça paraît frapper du bon sens, mais à un moment donné, il y a dans son chemin de vie. Il faut une prise de conscience de sa difficulté financière. Si cette prise de conscience n'est pas là, le moment n'est pas venu. Quelquefois, il faut provoquer cette prise de conscience. Ou cette prise de conscience, elle est provoquée.
Sa difficulté financière, voyez, moi, pendant très longtemps, pourtant, je suis une personne, entre guillemets, intelligente, j'étais à l'école et tout, j'avais une notion de l'argent qui était complète. J'avais pas la notion de la valeur de l'argent exacte. En fait, j'avais une notion complètement floue. Pour moi, l'argent, c'était... je sais pas comment vous expliquer ça, donc c'est vrai que dans la tête de beaucoup de gens, je pense qu'ils n'ont pas une notion exacte de l'argent.
Oui. Je crois que Caroline, vient effectivement, et on va terminer sur ce mot-là, c'est le rapport que nous avons personnellement à l'argent. C'est important, à un moment donné, de prendre le recul nécessaire pour comprendre comment nous fonctionnons, nous, rapport à cet argent qui est un moyen de paiement, mais comment nous fonctionnons.
Oui.
Merci beaucoup, Caroline, merci.
J'espère que ça pourra aider les auditeurs.
À très bientôt sur Radio Crésus.
D'accord, très bien. Merci en tout cas d'être là.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, la radio qui vous aide.
Vous êtes sur Radio Crésus et nous avons Stéphane à l'antenne. Stéphane ?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, dites-nous un peu ce qui se passe vous concernant.
Concernant la faillite civile, c'est ça ?
Enfin, sur la difficulté financière que vous avez rencontrée et comment elle est venue ?
Ça a été simple, j'ai perdu mon travail. Donc, moi je suis chauffeur poids lourd à l'origine, le dernier boulot que j'ai fait, c'était dans un garage où je roulais un camion, mais comme lui il était pas régi par la loi du transport, il m'a pas fait passer ce qu'on appelle la FCOS. Du coup, quand j'ai perdu mon travail, j'ai voulu reprendre mon boulot de chauffeur, mais j'ai pas pu parce que j'avais pas cette habilitation. Et vous savez, les patrons ils vous prennent pas comme ça, ils vont pas vous payer un stage de 5 jours à peine vous arrivez à 1 500 euros dans l'espoir que vous allez rester ou pas, maintenant depuis le temps je suis au chômage, donc après vous allez commencer à vous pouvez plus payer à un moment donné, vous avez le chômage mais ça suffit pas.
D'accord.
Moi, j'ai 5 enfants donc
Okay.
Et ça fait boule de neige, du coup après vous vous retrouvez avec un tas de dettes sur le dos et vous savez plus quoi faire.
Au niveau des ressources toujours des chiffres. Entre avant et maintenant, quelle est la différence ?
Maintenant, je touche ce qu'on appelle le solidarité,
L'ASS, l'allocation de solidarité.
C'est ça, je crois, l'ASS. Après le chômage, vous avez, ils vous donnent 470 euros, quoi. Hein, donc, vous voyez, c'est pas énorme, mais bon, hein, tout ça, ça fait maintenant, ça se fait pas en une année, hein, ça s'est fait en 2-3 ans. D'accord. Et ben, j'ai tout perdu, hein, ma femme, on a eu le divorce, enfin bref, c'est, parce qu'on a beau dire, l'argent fait pas le bonheur, mais il contribue quand même beaucoup.
Oui, ben en tout cas, ça, c'est vrai que ça facilite les choses. Donc là, et du coup, séparation.
Voilà. Chez ma mère, j'ai 400 euros par mois et voilà.
D'accord.
C'est affreux, quoi.
Et le monde du travail, aujourd'hui, c'est difficile de trouver
Ouais, parce que le problème, c'est que pour tout, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai 42 ans maintenant, il y a une vingtaine d'années en arrière, quand je quittais un boulot ou je perdais un boulot, j'allais retrouver un autre travail ailleurs. C'était pas vraiment un souci. Oui. J'ai fait tout un tas de travail. Et les travaux que j'ai pu faire il y a 20 ans en arrière, je peux plus les faire maintenant parce que pour tout, il faut des habilitations.
Oui.
Hein, je travaille dans le paratonnerre, dans les échafaudages. Maintenant, il faut une habilitation de hauteur. Avant, il n'y en avait pas besoin. Enfin, vous voyez, tout ça, ça fait que les patrons, s'ils préfèrent prendre des gens qui sont qualifiés et qui ont toutes ces habilitations dans les mains, plutôt que de prendre quelqu'un à qui il va falloir le payer, quoi.
En tout cas, si je comprends bien, vous êtes un homme qui a une certaine polyvalence dans les métiers, mais malheureusement, par défaut de reconnaissance de vos compétences par un papier, ça passe pas.
Voilà.
Est-ce que dans le cadre de votre parcours, aujourd'hui, vous êtes sur une formation, qu'est-ce que...
Quand j'étais plus jeune, moi, j'avais commencé un CAP de chaudronnier. Mm-hmm. J'ai arrêté, vous savez, quand on est jeune, on est bête, hein. J'ai arrêté, je l'ai pas fini, mais je voudrais reprendre maintenant. Donc, j'ai vu avec les ACDIC pour, justement, faire une remise à niveau, si vous voulez, parce qu'à mon âge, c'est plus évident, quoi, hein. Donc... Là, il faut que je trouve de quoi faire un stage d'une semaine, parce qu'ils veulent sûr que ce que je veux faire, ça me plaît bien.
D'accord.
De là, une fois que j'ai fait ce stage et que j'ai la preuve que j'ai fait ce stage, ils vont me diriger sur un centre de formation, vous voyez.
D'accord, donc c'est un stage qu'on appelle un stage en évaluation en milieu de travail, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Ouais.
Et juste une question, est-ce que il y a 3 ans ou 4 ans?
Oui.
Est-ce que vous auriez imaginé en arriver à cette situation-là aujourd'hui?
Ah non, pas du tout. De toute façon, de toute ma vie du travail, j'ai été chômage 2 fois. La première fois, ça a duré 1 an.
Oui. Hein,
là, par contre, c'était moi qui, j'avais beaucoup d'argent de côté à ce moment-là parce que avant qu'il y ait l'euro, tout allait bien.
Oui.
Hein, je vais vous dire honnêtement, moi, je travaillais dans les nacelles, je gagnais 7500 francs par mois.
D'accord.
Véridique, hein. 7500 francs, c'est pas énorme, hein.
Ouais.
Je gagnais 7500 francs par mois et avec ma femme, on a réussi à mettre, ma femme ne travaillait pas, hein, on a réussi à mettre à peu près 100 000 francs de côté.
D'accord.
Dès que l'euro est passé, je gagnais 1800 euros par mois, ce qui fait un peu plus de 10 000 francs, hein, parce que
oui.
Moi, je relativise en francs. Et non seulement j'ai pas réussi à mettre un sou de côté, mais à la fin du mois, on était obligé de tirer sur la corde parce qu'on n'avait pas assez. Donc, on s'est bien fait avoir, je vais vous dire. On l'a bien, sans vouloir être vulgaire, on l'a pris bien profond, hein, parce que moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Vous voyez, et la première fois que j'étais au chômage, j'ai un peu traîné parce que je savais que je pouvais me permettre, donc ça a duré 1 an. Mais là, je vous dis, quand je me suis retrouvé au chômage, non, pas du tout, je pensais pas du tout que j'en arriverais là, hein. Hein, de là à tout, parce que j'ai vraiment tout perdu, hein, de
donc
ma femme,
aujourd'hui aujourd'hui on a bien compris, vous êtes seul, vous essayez de vous en sortir comme vous pouvez, formation en cours. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que vous êtes surendetté?
Ah ouais, largement. Ouais.
Oui.
Ah ouais, je dois en avoir pour écoutez, parce que le problème, c'est que quand tout va bien, vous savez ce que c'est. Vous faites un crédit pour ci, pour une voiture, vous faites un crédit pour ça. Vous voyez, il y avait l'assurance complémentaire, il y avait tout un tas de choses qui étaient en route.
Oui.
Alors, si ça dure 2-3 mois, vous pouvez rattraper. Mais quand ça dure 1 an ou 2, hein, vous avez tous les excuses sur le dos. Alors, en plus, il y a les frais, je vais vous dire. La banque, en plus, là, dès qu'il y a un rejet, hein, par exemple, vous avez un truc à payer 15 euros, hein, vous n'avez pas l'argent sur le compte, ils vous font un rejet, eux, ils se prennent 20 euros.
Oui.
Non, parce que c'est inadmissible. Je veux dire, il y a quand même un problème. Après, ils s'étonnent que les gens, ils n'ont pas d'argent.
Oui.
Je suis désolé. Je veux dire, ils auraient payé les 15 euros. Hein, la banque, ça lui aurait pas coûté grand chose, et j'avais pas 20 euros à donner, parce que là, je donne 20 euros à la banque, et je suis quand même obligé de donner les 15 euros. Donc ça, c'est uniquement pour rouler les gens, quoi, hein.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, il y a des mesures qui sont mises en œuvre pour protéger mieux le consommateur, notamment par rapport aux frais de banque. Hein,
ouais,
donc ça, c'est un des effets de la loi Hamon qui est sorti tout récemment, et qui limite le montant des frais, notamment à 80 euros par mois.
Ben oui, je savais pas ça.
Voilà.
Vous me l'apprenez. Mais maintenant, je veux dire, honnêtement, hein, quand les problèmes commencent et que vous, à la fin du mois, il y a des fois, vous vous demandez, putain, mais je vais me foutre en l'air, c'est pas possible. Et vous vous dites, non, je peux pas faire ça, j'ai les enfants, j'ai la femme, de toute façon,
oui.
Ça sert à rien, ça arrivera pas le problème. Mais je vais vous dire honnêtement, on y pense.
Oui.
Hein, c'est un truc qui vous traverse l'esprit parce qu'à un moment donné, vous savez plus quoi faire. Quand vous avez les huissiers qui tous les jours déboulent chez vous, qui vous font des menaces, attendez. j'ai eu un huissier, honnêtement. J'étais, elle me téléphone et elle me demande, voilà, il faut payer ci, ci et ça. Alors je lui explique que j'ai pas les moyens, hein, que bah là je touche que l'ASS.
Bien sûr,
hein. Ouais. Elle me dit oui mais écoutez, si ça va pas, on va venir, on va vous prendre tout ce que vous avez. Alors je lui dis écoutez, de toute façon c'est simple, venez, j'ai rien. J'ai plus rien, j'ai tout perdu. Hein, bah, mes meubles on en a plus, je vis chez ma mère. Vous savez ce qu'elle a eu le culot de me dire? Ah bah vous en tirez bien. Écoutez, je me suis énervé au téléphone, je lui ai dit elle est gonflée, vous vous en tirez bien, j'ai plus rien, je suis comme à la limite presque clochard, hein, si ma mère n'était pas là, ben, je serais à la rue, et elle me dit à moi que je m'en tire bien. Et quand vous avez des gens comme ça au bout du fil, là, où, qui viennent vous voir, qui vous font des menaces ou qui vous balancent des saloperies pareilles, je veux dire, ça aide pas les choses. Hein. Ouais. Et on vit dans ce monde où, de toute façon, voilà, c'est ça, hein, où on est un requin, où on se fait bouffer, hein, c'est clair. Hein.
Alors c'est important que vous en parliez de ces saisies, parce qu'à un moment donné, comme vous le disiez, si on n'a plus rien. Hein, on a des revenus qui sont les minima sociaux que vous avez aucun patrimoine. L'huissier va voir son action totalement neutralisée. Et en ce sens, elle dit, alors c'est vrai que la formule est malheureuse, mais quand elle dit vous en tirez bien, c'était par rapport à la saisie.
Ouais, c'est vrai
que on est bien d'accord, mais en fait, l'huissier est impuissant. Tout simplement.
Ouais, d'accord.
Et voilà. Mais on entend bien.
J'ai compris ce qu'elle avait dit. Mais je veux dire, dans ces moments-là où vous venez de tout perdre, hein, je veux vous dire, hein, plus de femme, plus d'enfants. Enfin, si, j'ai toujours mes enfants, c'est toujours les miens, bien heureusement. Hein, et encore ça va parce que je m'entends bien avec elle, je peux les voir quand je veux. Voilà, j'ai pas les moyens de donner une pension, mais elle sait très bien que quand j'ai retrouvé du boulot, hein, j'ai jamais été quelqu'un qui ne paye pas ses dettes, quoi. Je veux dire, c'est pas le problème. Mais dans ces moments-là, et vous avez en plus vous perdez une personne qui vous balance un truc pareil, vous vous dites mais c'est pas possible. Je veux dire non.
Oui, non, on est bien d'accord. C'est un total décalage avec ce que vous vivez.
Voilà, c'est ça.
Et ça. Alors une question, vous avez déposé un dossier de surendettement?
Ben, j'ai commencé et ben, comme j'ai trouvé un travail pendant quelques semaines, je me suis dit bon ben je vais essayer et puis ben j'ai reperdu le boulot, de toute façon ça n'a pas duré. Donc du coup ben là je vais remettre en route, j'ai refait les papiers, parce qu'il y a un tas de papiers à faire.
Oui.
Hein, chambre des commerces, tout ça. Et maintenant comme en plus maintenant avec ma femme on est séparés, et ben il faut que je voie comment ça se passe. Vous voyez, parce qu'avant on l'aurait fait à deux, et maintenant il faut, parce que si moi j'en fais une. Moi, ce que je veux pas non plus, c'est qu'elle se retourne, que les dettes se retournent contre ma femme et les enfants. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est un dossier
donc,
de surendettement.
Que je voie maintenant comment faire pour justement qu'on soit tous les deux, ou alors on fait un dossier ensemble, ou alors on le fait séparément. Mais là, c'est en cours. Là, on est en train de, justement, j'ai déjà récupéré un maximum de papiers qu'il me fallait. Et maintenant, il faut juste que je passe là-bas pour régler le problème.
Est-ce que c'est un dossier de surendettement que vous avez fait, ou une faillite civile? Faillite civile. D'accord.
Ben, parce que surendettement, ça va, c'est bien. Hein. Le problème, c'est que ben, j'ai tellement de dettes, je vous dis. Hein, ça s'est accumulé hein, avec le temps, hein, ça va vite. Hein, je ne dois pas être loin de 170 ou 200 000 euros. Hein.
D'accord.
Et je vous garantis, hein, c'est sur la tête de mes 5 enfants. Hein, c'est pas du crédit pour acheter des grandes télé. Vous seriez venu chez moi. Hein, on avait encore les vieilles télé, les carrés. Hein, j'avais pas de grand écran. On a juste fait un crédit à la banque de 15 000 euros il y a 8 ou 9 ans, hein, quand tout allait bien, pour acheter une voiture et puis pour refaire un ménage à la maison. Hein. Ça on a payé tout doucement, hein. Quand les problèmes ont commencé, bah ils ont réduit un peu, au lieu de payer 250 euros par mois, je payais que 150, enfin bref, donc ça a encore augmenté les échéances. Après j'ai juste fait un petit crédit à la consommation chez Cofidis de 2000 euros, mais là c'est les pires, parce que enfin bref, et c'est tout, hein. Après je vous dis c'est
et comment tout ce qui est... Stéphane, oui. Comment vous en êtes arrivé à 170 180 000 euros? C'est des crédits à la consommation, c'est quoi? C'est les loyers,
Il y a
c'est
le crédit, après il y a les loyers à payer, parce que c'est pareil, vous ne pouvez pas payer les loyers, c'est toujours pareil. Je vous dis, tout ce qui est assurance complémentaire, ça, si vous faites le calcul, en gros, il y en avait pour 50 000 ou 60 000 euros, mais maintenant, si je ressors tous mes papiers, là, parce que j'ai tous les papiers, je dois pas être de loin, 150 000 à tout casser, avec tous les frais, avec tous les machins, avec tout ce qui s'est rajouté avec le temps, enfin bref. C'est de la folie, quoi.
Alors, manifestement, Amélie Imbert, notre juriste, a bien précisé que vous étiez dans le cadre d'une procédure de faillite civile du droit local Alsace-Moselle. Et vous avez, effectivement, vous remplissez les conditions. Hein. Cette condition indispensable, c'est l'insolvabilité notoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez plus être en mesure de pouvoir payer vos créances. Et en plus, ça doit être connu de vos créanciers. Hein, c'est cette notoriété, l'adjectif notoire, qui est important. Puisque l'huissier va venir vous voir, hein, et il va essayer de saisir. Mais manifestement, il va bien comprendre qu'il n'y a rien à saisir.
Ah bah c'est clair, hein, parce que de toute façon, je vous dis, je vis chez ma mère, et puis chez ma mère, bah, je dis sur le lit que bah, ma mère, elle avait déjà. Il n'est pas à moi le lit, hein.
Voilà.
J'ai rien à part.
Mais il faut, savoir, il faut savoir, Stéphane, aussi que quand bien même vous auriez un lit ou une literie, l'huissier ne pourrait, pourrait pas le prendre. Hein. Il y a des règles aussi en matière de saisie qui interdisent à l'huissier de prendre certains biens. Qui nous permettent de vivre dignes.
Voilà. Comme ça, les trucs des enfants aussi, ils n'ont pas le droit.
Voilà.
Le lit, la table, frigo, même télé, tout ça, il peut pas le prendre.
Voilà.
C'est le minimum vital qu'il doit laisser.
Voilà.
Mais vous voyez, ce qui est embêtant aussi, c'est que quand tout va bien, on pense pas, hein, et tout ce qui est loi, tout ce qui est, on cherche pas à savoir. Moi, je suis pas quelqu'un, vous voyez, je suis un peu simple, si vous voulez. Moi, tant que tout va bien, je suis un peu comme tout le monde. Et mais, par exemple, les infos, je les regarde pas.
Oui.
Hein, je suis pas quelqu'un qui va prendre le journal tous les matins, qui va regarder les infos, mm-hmm. tout simplement parce que, ça m'intéresse pas. Voilà, je suis comme ça. Hein, je veux dire après. Alors, tout ce qui est juridique ou les lois, les machins,
c'est un métier.
Je suis vraiment intéressé.
C'est un métier. Oui. Hein, je crois qu'il faut que, il faut bien dire aussi. Alors, on peut se renseigner aujourd'hui. C'est vrai qu'avec Internet, on a foison d'informations. Il faut être très vigilant sur la manière dont on va interpréter et comprendre l'information, surtout si on n'est pas un professionnel, ou en tout cas si on n'a pas été formé à ça.
Oui, c'est ça.
C'est important parce que on voit à travers la procédure de surendettement qu'il y a une forte dimension juridique, et à travers la procédure civile également, hein, puisqu'on doit à un moment donné se présenter devant le juge. Il faut connaître la procédure. Et c'est vrai que se rapprocher de Crésus, ça peut vous aider dans la manière de mener le dossier et de bien le présenter aussi. Hein, je crois
que
ça, c'est important.
Ce qu'on m'avait conseillé de faire, et c'est ce que j'ai fait, parce que comme je vous disais, j'ai pas grand-chose, hein, il y a un ou deux huissiers que tous les mois, je leur donne 30 euros, vous voyez. Hein, mmh. Je peux pas faire plus, de toute façon, hein, j'ai rien. Hein. Donc, et ils m'ont dit que de toute façon, ça aiderait, justement, quand je passerai devant le juge, de montrer que moi, je suis de bonne foi, vous voyez, que je ne cherche pas à ne pas payer. Quoi,
mais ça n'enlève rien aujourd'hui, je crois, à votre insolvabilité notoire, au regard des pièces dont vous avez parlé. Maintenant, la procédure va suivre son cours. Vous êtes accompagné par Crésus dans le cadre de cette procédure.
C'est ça, oui.
D'accord. Donc, ça se passera effectivement devant un magistrat. Et c'est le magistrat qui, à l'étude de votre situation, dira si, effectivement, vous êtes de bonne foi et si vous êtes aussi dans cette situation qui va vous permettre de repartir à zéro.
Ouais.
Hein, donc, effacement des créances pour vous permettre de reprendre une vie, je dirais, plus sereine et
voilà,
de vous reconstruire
ouais,
et notamment de vous former, hein, puisque c'est l'objectif que vous avez, le projet que vous avez actuellement.
Parce
Stéphane.
Que ce que je voulais faire, moi, c'est justement refaire de la soudure, vous voyez.
Oui.
Parce que chaudronnerie, c'est un peu tout ça. Et puis, là, éventuellement, même partir, vous voyez, ça me dérange pas.
Bien
bon, donc, au début, que dans ma jeunesse, je partais en déplacement. Quand j'ai commencé à avoir les enfants avec ma femme, ça l'embêtait, donc j'ai arrêté les déplacements. Mais maintenant que je suis tout seul quelque part, bon, j'ai mes enfants, mais la semaine, je suis pas avec eux. Donc, je peux recommencer à partir. Vous voyez, je suis prêt à faire à beaucoup de choses, hein. Je m'en fous. Demain, moi, on me donne, je sais pas, déménageur, je fais déménageur, hein. C'est pas le problème.
Oui.
Mais, voilà, c'est dur, hein, je vous dis, c'est pas évident, hein. Les gens croient qu'on est là à se reposer, je dis pas, il y en a qui doivent le faire, mais c'est pas mon cas, hein, au contraire, hein, ça m'embête, faut pas savoir, hein. Je préférerais, d'en trouver un travail et payer mes dettes, et être tranquille, avoir un appartement, avoir une vie normale, que d'être là comme je suis et ne pas payer, hein. Vous voyez, c'est...
Et votre état d'esprit, là, que vous décrivez, c'est celui aussi de bon nombre de personnes que nous rencontrons, hein. C'est pas des flambeurs, les gens que nous rencontrons. Vous parliez des achats.
C'est des gens qui
aimeraient effectivement pouvoir mettre leur énergie dans le travail, et c'est vrai que c'est pas simple à vivre. Si vous aviez maintenant un conseil pour terminer pour nos auditeurs.
De ne pas perdre son travail.
Ouais, ça, c'est
pour le garder.
Évidemment.
Parce que c'est le déclencheur. Hein. Vous perdez votre travail, hein. C'est incroyable. Hein. Alors après, comme dit, moi, le dernier boulot que j'ai fait, je l'ai perdu parce que la société était en redressement judiciaire.
Oui.
Hein, comme j'étais le dernier arrivé, j'étais le premier parti. Hein. Maintenant, voilà, c'est la faute à pas de chance. Mais comme dit, c'est le travail. Essayez de le garder au maximum, même si ça plaît pas. Hein, parce que combien de fois je me suis levé le matin en me disant, oh putain, vous voyez, ça me fait, hein, j'aimerais bien rester à la maison. Hein. Ben non, ne pas le faire, hein, parce que maintenant, de nos jours, apparemment, hein, il vire à tout va, et puis pour retrouver du travail, c'est pas évident.
Merci beaucoup, Stéphane, pour votre témoignage.
Ben, je vous remercie à vous.
Et bon courage pour la suite.
Merci.
Au revoir.
Excusez-moi, vous passez quand, alors ?
Bientôt. Donc, il faudra vous brancher sur Radio Crésus, hein, pour écouter les émissions, hein, n'hésitez pas. Donc, c'est sur le site internet Radio Crésus, hein, c'est par internet. Et donc, vous avez toutes nos émissions qui sont diffusées, voilà, avec aussi des flash info conso. Donc, il y a des points juridiques sur des thématiques. On a travaillé aujourd'hui sur les logements pendant les vacances. Hein, donc, voilà, plein d'informations sur Radio Crésus.
Bah, je vous remercie beaucoup.
Merci Stéphane, au revoir.
Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide.